Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes mercredi 24 novembre 2021. Merci d'être avec nous sur la radio Inzamba Gatikakawe. C'est l'heure du journal en français, dont voici d'abord les principales articulations. L'arrestation de Béatrice Nyamoya samedi dernier fait toujours parler d'elle. Maître Gustave Niyonzima, un des défenseurs des droits humains, constate que l'arrestation a été faite en violation de la Constitution et des autres textes internationaux que le Burundi a ratifiés. Et puis l'initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB, n'en revient pas. Elle dit ne pas comprendre la décision des États-Unis d'Amérique visant la levée des sanctions contre les personnalités du Burundi qui ont trempé dans les violations des droits de l'homme au cours de la crise de 2015. Enfin, la mesure de démolition des maisons construites anarchiquement commencera à être mise en application demain jeudi, le 25 novembre, dans la commune de Kirundo. Cette mesure n'est pas bien accueillie par la population. Voilà pour le sommaire de ce journal. Dans quelques poussières de secondes, les développements.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Je vous le disais en titre, l'arrestation et l'emprisonnement de Béatrice Nyamoya a violé la Constitution et les autres instruments internationaux que le Burundi a ratifiés. C'est du moins ce que constate Gustave Niyonzima, un défenseur des droits humains au Burundi. Il dit que même les explications données par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ne tiennent pas debout. Il demande au président de la CNIDH de faire preuve d'indépendance pour la cause des droits de l'homme au Burundi. Le point avec Trifine Kaniwabo.
La Commission nationale des droits de l'homme affirme avoir suivi l'arrestation de près de l'activiste des droits de l'homme, Béatrice Nyamoya. Dans un entretien accordé à notre confrère de la BBC ce mardi, Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNIDH, explique qu'il y a une raison de son arrestation, mais une raison non élucidée par cette autorité.
Oui, elle a été informée que son arrestation est liée aux enquêtes en cours. Je n'étais pas présent quand elle a été arrêtée. C'est normal, quand une personne est sous enquête, elle ne peut pas être autorisée à faire contact avec d'autres personnes. Vous savez, quand une personne est libre de faire des enquêtes, des contacts avec d'autres personnes peuvent fausser les enquêtes en cours.
Le langage du président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme est critiqué par les défenseurs des droits de l'homme. Maître Gustave Niyonzima démontre que la Constitution et les autres lois procédurales ont été violées sans oublier les instruments juridiques internationaux que le Burundi a ratifiés. Écoutez Maître Gustave Niyonzima.
Les propos du président de la CNDH manquent d'objectivité sur le plan du droit pénal et manquent de pertinence politique. Les officiers de police judiciaire du Service national de renseignement qui ont embarqué Manu Militari, Madame Béatrice Nyamoya, n'ont pas fait leur devoir d'informer à l'accusé de ses droits de garder le silence à l'absence de son avocat de son choix. Tout ceci transgresse les articles 10, alinéa 5 et 138 du Code de procédure pénale.
L'activiste Béatrice Nyamoya, où elle est dans sa cellule au bureau des renseignements, n'a pas droit à la visite de qui que ce soit, ni de son avocat. Le président de la CNIDH explique que c'est pour des raisons d'enquête. Écoutez, Sixte Vigny Nimuraba, président de la CNIDH.
Une personne bénéficie de la défense juridique lorsqu'elle a été remise au parquet. Je crois qu'une fois qu'elle ne sera pas libérée, son dossier sera transmis au parquet. Mais pour le moment, on collecte les éléments à charge et à décharge. Une fois chargée pour des motifs valables, elle sera remise au parquet. Vous savez que les services de sécurité ne posent pas des actes judiciaires.
Maître Gustave Niyonzima déplore que les propos du président de la CNIDH sont contraires à la procédure légale.
Mais lui s'en fout, il n'y a jamais eu d'infraction à décharge, car même Madame Béatrice Nyamoya a été embarquée sans courrier mandat judiciaire, ici je veux dire la convocation lui adressée par un officier de police judiciaire, et sans qu'il y ait également des preuves tangibles à son égard. Tout ceci transgresse successivement les articles 14 et 230 du Code de procédure pénale. Qui plus est, le principe cardinal de toute enquête et instruction veut que le ministère public instruise à décharge et à charge conformément à l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Mais rien n'a été fait. Et en droit pénal, l'on ne peut pas incarcérer quelqu'un pour des chefs d'accusation obscurs et imprécis. La liberté étant la règle et la détention l'exception, comme l'exige l'article 154 du Code de procédure pénale.
Ces défenseurs des droits de l'homme demandent au président de la CNIDH de travailler en toute indépendance dans la défense des droits de l'homme sans vouloir justifier les actes illégaux des instances gouvernementales. Rappelons que Béatrice Nyamoya est une activiste dans la défense des droits de l'homme au Burundi, des femmes en particulier. Il a été arrêté samedi à l'aéroport international de Bujumbura en provenance de l'étranger.
Merci Trifine Kaniwabo. L'examen d'évaluation de la levée ou pas des sanctions prises par l'Union européenne contre le Burundi, qui était prévu avant la fin de ce mois de novembre, a été reporté pour l'année prochaine. Les défenseurs des droits humains burundais continuent à insister sur le maintien de ces sanctions, car disent-ils, les facteurs qui avaient poussé l'Union européenne à prendre ces sanctions, à savoir le non-respect des droits de l'homme et l'impunité, reste d'actualité au Burundi. Maître Armel Niyongere, président de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à ACAT Burundi, demande à l'Union européenne de faire une évaluation objective. Suivez.
L'Union européenne a renouvelé ses sanctions individuelles contre certaines autorités burundaises, dont l'actuel ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, le commissaire de la Côte Gervais. C'est une bonne chose que l'Union européenne voit que ça serait prématuré de lever ces sanctions contre certains présumés auteurs de violations, mais cette décision reste une décision politique. À part cela, nous voulons que la justice aussi puisse se prononcer par rapport aux auteurs de violations des crimes commis depuis 2015. Et puis, l'article 96 devrait prendre fin avec le mois de novembre 2021, cette année. Mais comme l'accord de Cotonou a été prolongé pour l'année prochaine, début de l'année prochaine, certainement l'article 96 aussi va être prolongé. Mais lors de l'évaluation, de l'analyse de la situation pour la levée des sanctions économiques, nous demanderons à l'Union européenne de faire une évaluation objective par rapport à la lutte contre l'impunité et par rapport au respect des droits de l'homme, parce que ces sanctions ont été prises parce qu'il y avait des violations graves des droits de l'homme. C'est-à-dire que lors de la levée des sanctions, on devrait faire une évaluation objective afin de lever ces sanctions.
Toujours dans le chapitre des sanctions, l'initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB, s'inscrit en faux contre la levée des sanctions contre certains responsables de graves violations des droits humains au Burundi par les États-Unis. Karina Tertsakian, chercheuse au sein de cette organisation, dit que ces personnalités dont les sanctions ont été levées ont encore du sang dans leurs mains et trouve que la décision des États-Unis va perpétuer l'impunité qui s'observe toujours dans le pays depuis la crise de 2015. Écoutez Karina Tertsakian.
Nous sommes choqués par cette décision des États-Unis de lever les sanctions contre des personnes qui ont commis de graves crimes au Burundi. Quand vous regardez la liste de ces personnes, la décision, franchement, est incompréhensible. La liste inclut, par exemple, Alain Guillaume Bunyoni, l'actuel Premier ministre et ancien ministre de la Sécurité publique, Godefroy Bizimane, l'ancien directeur général adjoint de la police et actuellement conseiller à la présidence, Gervais Ndirakobucha, l'actuel ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, et l'agent du Service national de renseignement Joseph Mathias Nyonzima alias Kazungu. Toutes ces personnes ont du sang sur les mains. Elles ont ordonné ou participé directement à des assassinats, à des actes de torture ou à des emprisonnements arbitraires et d'autres violations graves des droits humains, surtout pendant la crise de 2015. Le gouvernement du président Évariste Ndayishimiye n'a rien fait pour faire traduire en justice ces personnes. Au contraire, certains ont même été promus à des postes élevés dans le gouvernement. Cette décision des États-Unis ne va que renforcer l'impunité qui protège déjà les auteurs de ces crimes et donne l'impression que les États-Unis ne se soucient plus des crimes qui ont été commis au Burundi ou du sort des Burundais. En plus, cette décision intervient vraiment au mauvais moment, alors qu'il y a une dégradation ces derniers mois de la situation au Burundi, avec une recrudescence des cas de disparition forcée, des cas de torture et des emprisonnements arbitraires.
Pourquoi faut-il se faire vacciner? La vaccination contre la COVID-19 est recommandée par les scientifiques et l'Organisation mondiale de la santé pour trois raisons. La vaccination protège les personnes vulnérables et réduit le nombre de cas graves et de décès. La vaccination diminue le nombre d'hospitalisations et permet de maintenir le bon fonctionnement du système de santé pour tous. La vaccination permet de lutter contre les conséquences sociales et économiques négatives de la pandémie.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakaoui.
La suite de l'actualité, le ministre des Travaux publics vient de suspendre les travaux de construction d'une maison appartenant à un dénommé Aimé Emmanuel Nivigira. Ce chantier se trouve dans le quartier de Gasekebuye, dans la zone de Musaga. Deogracias Sangani Umami l'accuse d'avoir construit également dans un espace pouvant provoquer un risque d'effondrement d'autres maisons environnantes.
Tous les marais du pays appartiennent à l'État, ça n'appartient à personne. Les marais, à l'heure actuelle, un marais pareil n'est pas un marais viabilisable, n'est pas un marais résidentiel. Vous voyez comme tout autour de ce marais-là, il y a des sites de viabilisation. De part et d'autre, ça a été viabilisé par les services du ministère des Infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux. Nous avons respecté les normes d'urbanisme à partir du marais jusqu'à la première clôture. Ça a été respecté, mais comme vous le voyez, cette personne en question, il a violé la loi, il a violé la réglementation en vigueur en venant donc déstabiliser les milieux de son marais, en venant aménager le marais alors qu'on n'aménage jamais le marais pour y faire des maisons de résidentielles. Donc vous voyez que les dangers, les dégâts risquent d'être trop énormes. Ce que nous demandons, c'est quoi? Nous demandons à ce que tous les travaux d'aménagement et de construction s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Que demain, personne ne descende ici, dans cette marée, pour continuer ce genre de travaux.
Et pour boucler ce journal, la mesure de démolition des maisons construites anarchiquement va être mise en application à partir de ce jeudi, le 25 novembre, dans la commune de Kirundo. L'annonce a été faite par l'administrateur de cette commune, Viateur Abimana, mais la mesure est mal appréciée par la population. Les détails avec Beni Akserakana.
La population de Kirundo, accusée d'avoir construit anarchiquement, est folle de rage après que l'administrateur ait décidé de passer à l'acte. Cette population indique qu'elle a toqué à toutes les portes pour éviter que leur maison ne soit démolie, mais sans succès. Elle crie à l'injustice.
Nous demandons secours avant que nos maisons soient démolies. Nous avons contacté toutes les autorités, y compris le gouverneur. Nous avons montré tous les papiers nécessaires. Il y avait certains gens qui pensaient qu'on n'en avait pas. On a même saisi le conseil communal. Il s'est réuni le 25 septembre et a demandé à l'administrateur de ne pas démolir les maisons des gens en ordre. Nous constatons que la loi n'a pas été respectée.
Cette population de Kirundo demande aux hautes autorités du pays de comprendre leur doléance.
Nous demandons au conseiller des ministres de prendre les choses en main et au président de la République de comprendre la situation de Kirundo qui est liée au conflit interne. Nous ne comprenons pas pourquoi on veut démolir nos maisons. Nous avons demandé les parcelles et notre demande a été exaucée. Par après, nous avons reçu l'autorisation de bâtir et nous avons construit.
Nous avons cherché l'administrateur de Kirundo, Viateur Habimana, pour savoir s'il va revenir sur sa décision, mais sans succès. Sachez que cette opération de démolir ces maisons construites d'une façon anarchique a créé des frustrations chez la population de la capitale économique.
Merci, Beni Akselakana, et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir et à la prochaine.